Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un dernier débat de midi de la semaine. Alors vous allez sentir sûrement des odeurs de jet douche parfois, bon marché et de camphre, hein, très prenant, puisque le débat de midi du jour se déroule dans le vestiaire, puisque nous allons parler de sport, mais attention, hein, de sport féminin et notamment de cette médiatisation qui aurait, pour certains, disent, du mal à se développer. Le journal Le Parisien a publié une étude en juillet montrant que depuis le début de l'année, les journaux, radio et télé ont deux fois plus parlé, par exemple, de Kylian Mbappé que de l'ensemble des 23 joueuses de l'équipe de France de foot réunies. Tiens d'ailleurs, petit test, les Français sont allés jusqu'où à la Coupe du Monde? Eh oui, en quart de finale. Et à Roland-Garros, quel est le dernier joueur français à avoir remporté le tournoi? Yannick Noah en 83? Eh ben non, Marie Pierce en 2000. Mais bon, à 17 ans près, c'est la même chose. Il y a comme un vœu pieux, en fait, de la part des médias, de parler de sport féminin, mais ça fonctionne pas toujours. Alors, faut-il encore du temps où les spectateurs n'en sont pas friands? On sait à quel point les sportifs sont pris en exemple, quel impact cette faible médiatisation a sur les plus jeunes et comment tenter d'inverser la tendance. Il est donc temps de réfléchir à l'inscription sportive de vos enfants pour la rentrée. Et non, les filles ne font pas que de la gym et du poney, jouent au rugby. Ça peut bien aider pour la suite aussi. N'hésitez pas à réagir, à nous confier vos impressions sur le sport au féminin via vos notes vocales et messages sur l'application France Inter et même par WhatsApp au numéro suivant. Alors c'est un beau numéro, hein, le 07 64 13 70 07, le 07 64 13 70 07. N'hésitez pas donc en tout cas à nous donner vos réactions. On enfile nos shorts et on part en petite foulée. Le débat de midi est en forme. C'est parti pour 3 tours de stade.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi sur France Inter.
Et pour en parler, le débat de midi accueille Émilie Ross. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sportive. Vous avez lancé notamment le hashtag meuf de foot. Qu'est-ce que c'est déjà, meuf de foot?
Qu'est-ce que c'est, meuf de foot? C'est une meuf qui aime le foot en règle générale.
Tout simplement.
C'est moi. À la base, c'est moi sur mon canapé.
Comme on voit meuf au pluriel, c'est pour ça que je me permets. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs. C'est pour...
Ah ben, toutes les meufs qui aiment le foot sont les bienvenues.
D'accord, très bien. D'accord, c'est pour discuter foot. Également, Nathalie Yanetta, bonjour.
Bonjour.
Chef des sports à Radio France. Sandy Montanola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rennes. Vos recherches portent sur les inégalités femmes-hommes dans les médias et notamment dans la médiatisation du sport, donc vous êtes un peu la personne bienvenue, en tout cas, aujourd'hui. Et Frédéric Jossinet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes vice-présidente de France Judo et vous avez été médaillée olympique en 2004. Alors forcément, dès le départ, je vais quand même me tourner vers vous, Nathalie Yanetta. Quand on parle de sous-médiatisation du sport féminin, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai.
Ouais.
Les médias ne se saisissent pas de la même manière du sport au féminin que du sport au masculin, mais j'aimerais qu'on puisse être un tout petit, enfin faire un tamis un petit peu plus précis quand même de la différence. D'abord, en France, le sport, c'est pas non plus la matière numéro un, que ce soit les garçons ou les filles. Nous ne sommes pas un pays de sport, nous sommes un pays de sportifs, mais nous ne sommes pas un pays de sport, c'est une grosse nuance. À l'intérieur de ces sports-là, bah, il y a une énorme différence entre le sport numéro un, qu'est le football, et les autres sports, garçons et filles, là aussi mélangés. Et donc, quand on redescend là-dedans, le sexisme étant toujours un facteur, on le sait, aggravant, quelles que soient les situations, bah, à l'intérieur même de la médiatisation, qui est déjà, je l'ai dit, plus faible, même avec le sport numéro un, eh bien, vous avez une place du sport qui est en gros autour de 20% dans les médias. On parle d'un temps que moi, qui suis très ancienne et connue, où on n'en parlait pas du tout, on était autour de 5%, et encore, on ne sait même pas sur quelles données on se basait pour faire ça, parce qu'il n'y en avait pas des données. Donc
Sandy Montanola, c'est vrai qu'il y a des études sur la période de 2018-2021. Le sport masculin représentait en moyenne 71% de diffusion à la télé contre 4% pour le sport féminin. Donc clairement, est-ce que c'est une question? Est-ce que si on diffuse plus de sport féminin, ça va intéresser davantage de gens?
Alors c'est juste pour revenir sur le, parce que ces chiffres depuis 2018, en fait nous on a des recherches qui datent maintenant des années 90.
D'accord.
Et c'est intéressant de rappeler que il y a quand même deux éléments. Il y a une sous-médiatisation donc quantitative, vous venez de le mentionner, qui est déjà très ancienne et pour laquelle on se posait déjà ces questions de savoir en gros est-ce que, j'ai quelques exemples par exemple à partir de 85 dans lesquels on disait est-ce que si on médiatise plus ça va intéresser plus. Donc la réponse en fait on l'a aussi depuis longtemps, c'est-à-dire que oui en fait il faut un taux d'exposition d'action pour permettre aux personnes de pouvoir voir en fait ces sports-là. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un discours qui se développe et qui consiste à dire qu'il y aurait une sorte de progression en fait qui va se faire comme ça. Et donc on attend que ça progresse. Sauf qu'en fait on attend, mais on prend pas en compte un écosystème complet. C'est-à-dire que depuis, ce qui a changé, c'est aussi l'écosystème médiatique. Il y a plus de médias. Il y a des médias télé qui se sont créés, des chaînes privées, des chaînes spécialisées en sport. Il y a aussi maintenant les GAFAM qui s'intéressent au sport. Enfin, tous ces éléments-là, en fait,
pour donc, juste on les GAFAM, pourrait, Google, Apple, Facebook, Amazon.
Tout à fait, voilà. Qui s'intéressent aussi à la diffusion du sport. Et en fait, tout cet écosystème, il va peser d'autant plus sur les femmes parce qu'il demande une rentabilité. Et donc, à partir du moment où on demande à ce que ce soit rentable, ben ça veut dire qu'on rentre sur un écosystème avec des sponsors, des publicitaires, etc. Et donc là, en fait, ce qu'on est en train de demander aux femmes, c'est est-ce que si on les médiatise plus, ça va... Oui, en fait, on les médiatise plus, mais ça veut dire que pour ça, il faut qu'elles aient des bonnes conditions déjà de professionnalisation, et aussi des bonnes conditions, elles, pour ensuite pouvoir avoir, par exemple, des sponsors et donc avoir une médiatisation. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important à prendre en compte. Et donc, oui, on sait qu'il y a un lien entre cette exposition, mais on le sait depuis longtemps maintenant. Et pour terminer sur cette évolution historique, en fait, on voit bien que ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. Plus on demande à des médias d'être concurrentiels, rentables, etc. Et en fait, plus ils vont se centrer sur certains types de sports.
Oui, bien sûr.
Et donc, vous l'avez mentionné, le foot, par exemple, exactement. Et ça empêche certains sports d'être médiatisés. Et donc, en fait, on restreint. Et plus on restreint, en fait, il faut bien partager l'espace. Donc, il faut aussi trouver des créneaux. Et donc là, en fait, on a une concurrence entre hommes et femmes, clairement.
Ouais. Frédéric Jocinet, vous avez l'impression, vous, que les choses avancent petit à petit ou alors qu'on est toujours, finalement, dans la bonne intention et que ça va pas plus loin que ça?
Déjà, quand j'entends qu'il y a des connaissances et des réflexions qui sont en étant factuelles depuis 1980, j'allais dire, on est en 2023, où ça avance, mais quand même très, très, très doucement. En effet, il y a de la concurrence. Souvent, on a déjà, dans un premier temps, socialement opposé le sport pratiqué par les hommes et les performances surtout des hommes avec la pratique des femmes et les performances ou contre-performances ou pas assez de performances surtout des femmes, parce que c'est souvent ça qu'on demande, c'est de faire une performance, c'est bien, mais il en faut au moins 3, 4, 5. Je pense que si Marie-Pierce avait gagné 3, 4 fois peut-être Roland-Garros, peut-être qu'on on aurait pensé exactement. Et c'est aussi tout ça qu'il y a derrière, c'est cette comparaison constante qui est pas très valorisante et surtout qui fait aussi freiner considérablement aussi l'avancée du sport féminin.
Est-ce que vous-même, lors de votre carrière sportive, ça veut dire que ça a pu à un moment aussi vous pénaliser? On y pense à ça forcément, à un moment quand on voit des hommes, vous en judo, donc des hommes combattre, des femmes combattre, on y pense à ça?
Alors non, quand on est athlète, on y pense, en tout cas quand on est jeunes athlètes, on n'y pense pas trop. Et puis après, quand on commence à avoir des titres et des médailles au niveau européen, mondial ou olympique, on voit bien qu'il y a quand même une légère différence, voire beaucoup, voilà. On va pas dire légère, mais non, sans rigoler, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Et moi, je l'ai senti quand j'étais évidemment athlète. En plus, j'étais quand même avec sur des époques avec des champions judoka exceptionnels aussi. Mais quand même, quand on, je prends pas mon cas personnel, mais quand on voyait un titre olympique avec David Douillet ou un titre olympique avec Séverine Vandenande, et je suis sûre que ici pas grand monde la connaît, et ou Marie-Claire Restou, c'était juste incroyable. Même Olympiade, même performance, traité complètement différemment.
Bah, c'est ça qui est assez étonnant. Émilie Ross, c'est vrai que tout à l'heure, Nathalie Yaneta disait, c'est vrai, en France aussi, voilà, c'est notre vision du sport en général qui est un peu particulière. Il est vrai que quand on prend la finale de la Coupe de France féminine qui s'est déroulée à Orléans.
Alors Orléans, j'y étais, je peux vous en parler.
C'est très bien,
c'est très beau.
Mais c'est 6 000 personnes. La Coupe d'Angleterre féminine, ça s'est terminé à Wembley devant 77 000 personnes. Là, ça veut dire quand même, on voit véritablement la différence de traitement et même de la part aussi du spectateur et, ou même des fédérations peut-être même.
Après, j'ai envie de vous dire que d'aller à Orléans, ça limite aussi la capacité du stade. Donc en fait, le stade était plein, on a vécu un super match, etc. Est-ce que si tu positionnes ce même événement dans un plus grand stade, est-ce que tu remplis de la même manière? Est-ce qu'on communique de la même manière? Est-ce qu'on emmène les gens?
Bien sûr.
Est-ce qu'on amène les gens au stade? Parce que on nous demande beaucoup sur le sport pratiqué par les femmes de tout le temps en promotion, de limite de convaincre.
Ouais, bah évidemment.
Et moi, j'ai pas envie de convaincre sur ma passion. Par contre, effectivement, emmener des potes pour lui dire, viens, tu vas voir, on va faire une coupe de France et tu vas passer un moment génial parce qu'on a de la chance aussi, alors je parle du football, mais d'avoir quand même une ambiance qui est plus familiale, plus cool et tout ça quand il s'agit de foot pratiqué par les femmes. Au bout d'un moment, on peut pas convaincre 20 milliards de personnes. Par contre, je pense qu'on peut aider les gens et les amener au stade parce qu'il faut promouvoir les attraits et promouvoir les athlètes. On a de la chance en France d'avoir des super athlètes féminins. Et je trouve que si vous n'allez pas à leur recherche, ça ne vous saute pas aux yeux versus les athlètes masculins où effectivement, on a des portraits plus facilement et on est appâté plus facilement. En fait.
Mais au-delà de ça, pendant la compétition de Champions League, par exemple, les Parisiennes, elles ont un stade qui s'appelle le Parc des Princes, il me semble. Elles ne jouent pas au Parc des Princes. Il faut qu'elles demandent l'autorisation à ces messieurs d'avoir la place pour accueillir parfois des très grandes affiches, le FC Barcelone, Chelsea, etc. À l'inverse, les Espagnoles, elles accueillent les Parisiennes au Camp Nou, ou les Lyonnaises au Camp Nou. Donc, il y a un club qui joue le jeu, c'est l'OL, qui donne son Groupama Stadium aux Lyonnaises lorsqu'elles ont des grosses affiches. Donc oui, il y a une espèce de volonté aussi politique et de la part des clubs aussi qui doivent accepter. Ils vont pas vendre les billets le même tarif que si c'est un match de Champions League masculin.
Tu ne vas pas être prévenu au même moment.
Mais c'est pas grave.
T'as moins de temps de communication aussi. C'est-à-dire que là, pour la Coupe de France, les billets, je crois que c'était une semaine avant. Enfin, on n'aide pas, on ne contribue pas au savoir, en fait, au connaître.
Frédéric Jocelyne.
Déjà, il y a, en effet, au départ, il y a une réflexion sur l'investissement. Il y a quelques années, il y a beaucoup plus longtemps, mais au départ, on a investi aussi sur le sport masculin. On va parler un peu plus marketing, peut-être. Mais le foot féminin, déjà, je pense qu'il faut mettre le foot féminin à part des autres sports féminins, parce que c'est quand même deux produits très différents. Très différents. Ça reste quand même du foot, avec l'exposition, une certaine exposition médiatique du sport féminin différent que du foot féminin, ça c'est très clair. Il y a des questions d'investissement. On l'a dit, le stade du coup qui avait été retenu pour la finale de la Coupe de France cette année, Orléans. Ok, 6000 personnes, stade plein. Pourquoi à un moment donné les institutions ne disent pas on va faire la finale de Coupe de France à Grenoble par exemple, 20 000, 22 000 personnes.
Un plus gros stade.
Bien sûr un plus gros stade, mais il aurait été plein.
Mais
si on avait capitalisé, mis en place une stratégie de billetterie, de marketing, de promotion de l'événement, etc. Alors oui c'est les investissements, mais le stade à Grenoble de plus de 20 000 personnes, il aurait été plein.
C'est ça. Sandy Montana, c'est vrai qu'on parle du foot, parce qu'en effet, c'est le sport le plus populaire. Mais tout de même, quand on voit la Coupe du Monde, où les Français donc, ont été éliminés en quart de finale, il va y avoir la finale là ce week-end. On se souvient qu'encore jusqu'au mois de juin, eh bien, il n'y avait pas de diffuseur. C'est quand même assez étonnant de se dire, ça paraît, on imagine ça pour les hommes, non, enfin, parce que maintenant tout le monde se bat pour diffuser la Coupe du Monde.
Mais en fait, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un élément qui est stratégique. Et donc, ça veut dire que puisqu'on demande maintenant aux médias une certaine rentabilité, que les médias eux-mêmes sont en concurrence, les droits télé, en fait, deviennent vraiment un enjeu et des sommes sont assez importantes. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix, voir si ça va être rentable, etc. Je pense que la façon de poser, en tout cas, ces éléments-là pose problème. Si on revient sur ce qu'on disait, sur l'action de l'évolution, le problème, c'est qu'on pose toujours cette question sous un angle de est-ce qu'on va, en fait, il faut toujours prouver que ça peut intéresser. En fait, on l'a prouvé, en tout cas, les femmes sportives l'ont prouvé depuis les années 80. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un intérêt. Cet intérêt, il est présent. Par contre, on ne peut pas comparer deux types de... si on prend le foot, par exemple, ça va être difficile de comparer dans le sens où elles n'ont pas du tout les mêmes moyens. Elles ne sont pas professionnelles de la même façon, elles n'ont pas les mêmes entraînements, pas les mêmes terrains, pas accès aux mêmes choses. Donc, aller comparer un intérêt ensuite du public, c'est quand même relativement compliqué. Enfin, en tout cas, c'est peut-être dommage de le faire comme ça ou de se dire, ça ne remplit pas des stades. Ce qu'il faut rappeler, si on remet sur un point de vue historique, c'est quand même que cet intérêt médiatique, il s'est co-construit. C'est-à-dire, le sport et les médias se sont co-construits ensemble. L'intérêt, c'était de vendre des journaux
bien
au
sûr.
Départ. Et maintenant, on se focalise beaucoup plus sur les droits télé. Et là, par exemple, en 2019, on retrouve les mêmes titres dans les médias et les mêmes discussions en 2023 que celles qu'on avait eu en 2019, à savoir est-ce que ça va être un tournant pour les femmes ? Est-ce qu'elles vont pouvoir prouver ? Est-ce qu'elles vont... Et c'est vraiment...
On ne peut plus tourner, en fait.
Non, mais c'est... Je pense que c'est... Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, ou en posant la question sous cet angle-là, c'est qu'on accepte quelque chose qui est celle de... En fait, la question de départ, c'est pourquoi on a cette sous-médiatisation des femmes et une médiatisation qui est moins bonne. C'est qu'en fait, elle est moins bonne parce qu'on ne construit pas le suspense de la même façon. Et ça, plein de recherches l'ont montré. C'est pas les mêmes termes. C'est-à-dire que pour intéresser des personnes, il y a des matchs de foot, il y a aussi des combats de boxe, par exemple, qui n'ont pas un intérêt fabuleux, et en fait, qu'on va devoir, entre guillemets, vendre parce qu'on a acheté les droits télé. Et donc, on va construire un suspense. On va en amont dire, attention, il y a tel, voilà les enjeux qu'il va y avoir. Si on le fait pas pour les femmes, on intéresse forcément déjà beaucoup moins. Donc ça, c'est une construction. Il faut quand même se rappeler cet élément-là. Le deuxième élément, c'est qu'on se focalise uniquement sur les droits télé. Et donc, les droits télé, c'est aller aussi chercher une rentabilité. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'il y a plein d'autres choses. Et en termes d'évolution, si on revient, si on prend l'exemple de la presse, par exemple, moi, j'ai travaillé sur les Jeux Olympiques entre 52 et 2004. Ouais. En 52, par exemple, il y avait beaucoup plus d'articles mixtes dans lesquels on avait des hommes et des femmes. Et en fait, on est passé d'une focalisation qui se faisait par sport à une focalisation par athlète. Et ça veut dire qu'en faisant ça, et ben en fait, on traitait en moyenne, dans le monde par exemple, pour donner les chiffres, 7 disciplines différentes dans un même article, donc hommes et femmes. Et puis en fait, au fur et à mesure, maintenant la moyenne c'est 1.1, ça veut dire en gros, un article c'est une personne. Et donc on s'est focalisé maintenant sur des personnes. Sauf qu'il n'y a pas plus forcément, enfin il y a un peu plus d'espace, mais, et ça se fait toujours au détriment des femmes. Et juste pour terminer sur un tout petit point, ce qu'on disait tout à l'heure sur les résultats, sur les Jeux Olympiques, moi je l'ai fait dans ma thèse, donc on a un temps long pour le faire. Ce qu'on voit, c'est que le taux de médiatisation qu'elles ont ne dépend pas du nombre de médailles qu'elles ramènent. C'est-à-dire par exemple, sur les exemples que j'ai fait moi, 59% de taux de médailles pour les femmes, 36% de médiatisation. Donc, donc l'idée, ce ne serait pas dire est-ce qu'elles vont performer, si elles étaient meilleures, on y arriverait. Non, ça c'est, en fait, c'est juste une nouvelle façon, une résistance en fait. Sauf que c'est la forme qu'elle prend maintenant.
Alors vous parliez de presse écrite et c'est justement c'est en presse écrite. Annie nous a laissé un message, une note vocale sur l'appli France Inter. Elle lisait son journal et elle a été surprise par quelques informations. On l'écoute.
Le traitement médiatique n'est pas à la hauteur des enjeux du sport féminin. Pour preuve, le quotidien Ouest France, dans son supplément sport du dimanche 13 août, illustre par une photo la défaite de l'équipe de France féminine en Coupe du Monde face à l'Australie en quart de finale. Match au détour très suivi, mais il faudra attendre 7 pages pour qu'un article soit consacré à Eugénie Le Sommeur, l'enfant du pays, originaire de Plomeur. Le quotidien jugeait bon de consacrer ses premières pages au championnat de France qui débute pour le Stade Rennais.
Voilà, donc ça c'était Annie depuis Évian. C'est vrai que c'est assez concret tout de même, là, Frédéric.
Oui, enfin, on a vu le jour du match des quarts de finale aussi la place médiatique qu'avait entre guillemets ce match versus quart de finale d'un Euro masculin ou d'une Coupe du Monde 2018 chez les masculins. C'est aussi simple que ça. Donc, et de facto, le résultat. Alors en plus, s'il y a contre-performance. Même si pour moi, il n'y a pas finalement si contre-performance, mais peu importe, on voit que de toute façon, le traitement est de toute façon différent.
Oui, parce que les garçons ont échoué à l'Euro en huitième de finale. Là, c'était une contre-performance. On en a parlé beaucoup, longtemps,
etc.
Donc, ouais. En fait, la vérité, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous devons ou pas parler du sport féminin ? Parce que la vérité, c'est que nous sommes, en tout cas ici, des journalistes, que nous faisons donc des choix éditoriaux en fonction de l'intérêt et de l'importance que ça a. Et on se rend compte que, oui, on va traiter, par exemple, ici, à Radio France, nous avons suivi et nous suivons cette Coupe du Monde de la FIFA, féminine. Hein. Mais évidemment qu'on ne la suit pas, comme celle du Qatar il y a 8 mois au Qatar, nous étions... partis au Qatar, nous étions sur place au Qatar, nous sommes restés, alors l'équipe de France aussi, mais c'était la bonne raison par ailleurs, jusqu'au bout, au Qatar. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas là ? Ben, c'est pas le cas là parce qu'une Coupe du Monde du 20 juillet au 20 août, pardon, mais quand on a parlé des problèmes de médiatisation, il n'y a pas que la France qui était concernée, les autres pays européens. Ne voulaient pas acheter à la FIFA au tarif qu'elle demandait cette Coupe du Monde. Pourquoi ? Mais parce que Gianni Infantino, qui donne des leçons à tous les médias, et tant mieux qu'il nous les donne, les leçons, avait enlevé ce qui est normalement la période d'une Coupe du Monde, qu'elle soit pour les filles ou les garçons, c'est-à-dire en gros mi-juin, mi-juillet, où là, TF1, qui était la chaîne qui diffusait la Coupe du Monde 2019, il serait allé parce que c'est leur ADN à TF1 de suivre les équipes de France et les grands événements. Sauf que là, 20 juillet, 20 août, en plein milieu d'un no man's land télévisuel où les Français sont en vacances, avec en plus un décalage horaire. Bon, mais ça, c'est ça, on l'aurait fait quoi qu'il arrive. Et pour autant, les résultats sont pas si mauvais en termes d'audience, juste depuis le début de la compétition, pardon. Hein. Mais il y a un décalage. Il y a un décalage si vous avez pu l'équipe de France. Il y a un décalage quand c'est les garçons, mais ils ne décrochent pas autant quand même que là, sans équipe de France, avec les filles.
Juste un mot, Émilie Ross, il est vrai que ce que nous disait tout à l'heure notre auditrice, Annie aussi, c'était par rapport à son journal, et moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est notamment le journal L'Équipe, donc, qui est le journal de référence, hein, le journal de sport en France. Le quart de finale France-Australie, c'était une manchette, ce qu'on appelle vraiment sous le titre L'Équipe, et en une, c'était sur les transferts, en fait, entre eux, on le voyait, entre les transferts de Mbappé et Neymar. C'est quand même étonnant, alors que c'est l'événement, c'est le plus grand rendez-vous de foot féminin au monde.
Ouais, mais on revient encore une fois sur, sur les performances, et puis, bah, ça s'est fait, et on passe à autre chose, et puis, tu mets en une ce qui fait vendre, et c'est ça qui est fou, parce que je suis persuadée que si tu mets en une des disciplines féminines, bah, au bout d'un moment, tu vas vendre aussi, en fait. Moi, je pense qu'il faut aussi un petit peu marteler pour montrer comment ça se passe.
Ça dépend quand même.
Ça dépend quoi, mais là, pour
les handballeuses, quand elles sont championnes olympiques, alors que, punaise, c'était un exploit retentissant ce qu'elles ont fait à Tokyo, t'as la une sur Messi, mais parce que Messi, qui arrivait à l'époque au Paris Saint-Germain, c'était monumental. Donc, il y a aussi, éditorialement, on peut pas raconter n'importe quoi, et tout ne se vaut pas. Mais en l'occurrence, oui, évidemment qu'il y a une différence de traitement médiatique qui parfois est surprenante.
Après, ce qu'il y a en parallèle, le traitement des réseaux sociaux et des partenaires qui peuvent effectivement rentrer en considération. Je sais que moi, je vais aller plus m'informer à la rigueur sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, il y a des portraits qui sont faits par les partenaires des fédés, et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est un autre levier.
On va en parler dans un instant. On va s'écouter un petit peu. On va faire une petite pause, hein, déjà. On va s'écouter Jeanne Haddad avec Ready Baby dans le débat de midi.
sur France Inter.
Le débat de midi, nous parlons sport féminin. Où en est justement sa médiatisation? On l'évoque avec Émilie Ross, qui est journaliste sportive. Nathalie Yaneta, chef des sports à Radio France. Sandy Montanola, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Rennes 1. Et Frédéric Jocinet, vice-président de France Judo, médaillé olympique en 2014. Alors justement, Émilie Ross, on parlait au début d'émission du hashtag meuf de foot que vous aviez lancé. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, il peut y avoir aussi un retour de bâton pour certains médias, on va dire, plus traditionnels, de dire que bah, s'ils passent moins de sport féminin ou pas de sport féminin, eh bien ceux qui aiment ça vont aller sur des médias alternatifs, et notamment sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet pour les suivre et ne plus s'intéresser à ce que racontent les médias traditionnels.
Alors, c'est pas un vrai retour de bâton, mais en tout cas, c'est un chemin parallèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes, on peut effectivement suivre, et je pense vraiment aux partenaires, et alors, encore une fois, sur la Fédération Française de Foot, mais il y a vraiment des partenaires qui investissent au même niveau et qui vont faire des interviews, des portraits où tu vas pouvoir suivre. Parce que moi, j'ai besoin, quand je suis un sport, de m'identifier.
Bien sûr.
C'est comme ça. Et effectivement, c'est là où je vais du coup aller piocher ces informations, etc. Donc, est-ce que c'est un vrai pied de nez? Non, mais en tout cas, c'est un chemin parallèle qui peut être pris. Et par contre, je suis persuadée aussi que du coup, les médias qui ont aujourd'hui toutes des plateformes web sont aussi capables de le faire. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment de l'espace pour tout le monde, en tout cas sur le web en règle générale.
Mais Sandy Montanola.
Non, je pense que c'est vraiment un élément qui est intéressant parce que certains ont parlé des choix de l'équipe tout à l'heure et il faut rappeler que oui, c'est un choix, on disait économique, mais en fait économique parce que de fait, on a un lectorat qui est 90% masculin. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les recherches, alors il y a peu de recherches sur la réception, mais dans les recherches sur la réception, on sait, par exemple, avec les travaux de Sylvie Debras, que le sport fait partie des éléments vraiment clivants et pour lesquels, par exemple, les femmes disent en entretien, et je pense que ça, c'est intéressant du point de vue médiatique, elles disent en entretien ne pas du tout se reconnaître, parce qu'en fait elles sont pas présentes tout simplement. Donc comme elles sont pas présentes, elles se reconnaissent pas dans ces espaces médiatiques là, et donc en fait elles n'y vont pas. Et généralement, ce qu'on nous dit, c'est l'inverse, c'est-à-dire les femmes lisent pas, donc on s'adresse pas à elles. En fait, non. Dans les entretiens, ce qu'on a vu à plusieurs reprises, et voilà, c'est vraiment que les femmes, puisqu'elles sont pas présentes, elles se disent je vais aller lire autre chose, quitte à lire parfois, elles vont dire de la presse féminine, même si je m'y retrouve pas non plus, mais au moins je suis présente dans ce type de médias. Et ce qu'on voit en fait, c'est se développer des espaces parallèles. Et je disais tout à l'heure en 85, il y a déjà un magazine qui s'appelait Sportive, qui était sorti donc 4 numéros avant de s'arrêter, par exemple. Co-réalisé par Marie Drevet, par exemple, mais dans ce magazine, on avait déjà cette volonté de dire on parle pas assez du sport féminin dans d'autres types de médias, donc on va créer un espace à nous. Et ça, en fait, historiquement, c'est très présent. C'est-à-dire, en gros, les femmes n'ont pas accès aux arènes les plus, les plus diffusées, et donc vont créer leurs propres moyens de diffusion. Et on l'a à nouveau. Il y a eu l'équipe féminine en 2005. Oui. À partir de 2007, on a plusieurs médias qui sont créés en ligne. En 2016, on a trouvé le magazine qui s'appelle Les Sports et Women's Sport. Et là, en 2023, il y a des magazines qui annoncent sortir, parce que je pense qu'il y a les Jeux Olympiques, spécifique pour le sport féminin.
D'accord.
C'est intéressant. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, ils n'ont pas du tout les mêmes audiences et
les mêmes
moyens. Voilà, donc ça pose d'autres problèmes, mais ça montre quand même qu'il y a quand même cet intérêt aussi pour les femmes.
Nathalie Yaneta, vous-même qui avez beaucoup travaillé sur le sport en tant que journaliste, est-ce que ça, c'est le genre de solution, en effet, des journaux, en effet, on va dire, de presse sportive féminine, à votre avis? Est-ce que ça peut être intéressant?
Après, il faut. La segmentation aujourd'hui de la consommation pour le sport, elle est dans tous les secteurs, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, les rugbymans, ils veulent lire des trucs sur le rugby, les judokas ont besoin d'avoir quelque chose sur le judo, les sports US ont besoin d'avoir leur univers US. Est-ce que c'est la solution? Oui, sur la consommation, on va dire, de manière spécialisée, mais en revanche, pour le grand public, on ne peut pas priver le grand public d'informations et d'un objet d'actualité qu'est le sport, et qu'il soit pratiqué par les hommes ou par les femmes. Nous, par exemple, Radio France, nous sommes partenaires du Tour de France des garçons, mais aussi des filles. Et on le suit dans les mêmes proportions, on propose les mêmes rendez-vous, parce que c'est un événement populaire, parce qu'il concerne l'intégralité des Français, pas seulement les amateurs de vélo, mais parce que nous sommes aussi un média généraliste. Donc je pense qu'il y a les deux, mais là où, juste pour conclure sur la médiatisation et la manière de raconter aussi, nous, médias généralistes, on doit pouvoir offrir les informations à tout le monde, quels que soient les sports et quelles que soient les compétitions. Mais ça nous coûte quand même de plus en plus d'argent. Et là, il y aura un autre sujet un jour à terme. En revanche, sur la scénarisation, le storytelling que l'on met autour de certaines compétitions pour leur donner envie. Moi, je viens d'une chaîne qui s'appelle Canal+, oui. qui en 1984 a raconté le championnat de France, qui à l'époque s'appelait la D1, qui était quand même un spectacle assez lamentable. Non, mais disons-nous les choses. À la fois sur le terrain, mais ils étaient moins bons que... Enfin, c'est spectaculaire, il faut regarder des matchs des années 80 et des matchs aussi. C'est pas le même sport, mais c'est pas le même sport. Donc. Et en partie, Canal Plus a changé l'image du football joué par les garçons, avec des nouvelles caméras, avec du son, avec de l'innovation technologique, avec des rendez-vous toutes les semaines où tu pouvais voir tous les matchs, où tu avais tous les récits, où tu avais tous les entraîneurs, où tu t'es attaché à des figures parce que d'un seul coup, les joueurs sont devenus des références et des gens connus, etc., etc. Donc là, d'un seul coup, quand vous regardez Canal+, ils essayent de jouer le jeu pour la D1 Arkema, qui est le championnat des filles. Mais sérieusement, quoi. Il y a des stades. Mais c'est une honte de faire jouer les filles dans ces stades-là, éclairées comme ça, etc. En fait. Ben, bien
c'est
sûr.
Alors, c'est clair.
Juste un mot sur WhatsApp. Greg nous dit à l'instant, il a entendu, donc, la personne de vous citiez, le président de la FIFA, parler, donc, du sport féminin.
Et Gianni Infantino,
exactement. Et qui nous dit, choisissez, et qui a dit, en fait, dans son communiqué, finalement, de conclusion de cette Coupe du Monde, il dit aux athlètes féminines, aux sportives et aux footballeuses féminines, choisissez vos bons combats.
Vos batailles.
Il parle plus que des athlètes. Il parle des femmes qui s'investissent. Et non, c'est ça qui est lamentable. Moi, j'ai écouté son discours, j'ai même lu ses déclarations, tellement je n'y croyais pas en 2023 encore, de la part du président de la FIFA. Et pendant cette Coupe du Monde, alors qu'elle fait des audiences exceptionnelles, dans le pays hôte, les pays hôtes, bien évidemment, hein, plus de deux tiers de la population qui a suivi le dernier match des Australiennes. Mais c'est juste incroyable. Il dit, les femmes doivent enfoncer des portes. Ah oui, bon, parce que ça veut dire que les hommes, en fait, ils ont juste à sonner ou à rentrer. En fait, il oppose tout. Il compare tout, il oppose tout. Et en gros, choisissez vos combats. Mais de quoi on parle ? En tant que président d'une institution pour la pratique d'un sport. Au départ, c'est comme ça, hein, quand même. Hein. Normalement, l'accessibilité... son terrain de combat à lui devrait être l'accessibilité par tous et par toutes dans tous les pays pour jouer au foot. Ouais. Et on nous parle d'enfoncer des portes et de choisir nos combats. Bon, c'est quand même très moyen.
Alors, Émilie Roche, justement, c'est ça qui est assez intéressant. C'est aussi, on a des questions à ce sujet. C'est sur... ces hommes qui sont majoritairement représentés dans les postes de direction des fédérations. Là, je vois ce chiffre, 8% des postes de dirigeants de fédérations françaises, par exemple olympiques, sont détenus seulement par des femmes. Est-ce que le fait de faire une parité aussi à ce niveau-là, on peut imaginer s'il y avait 50-50, est-ce que ça changerait quelque chose ?
C'est une question qui n'est pas simple et je m'explique. Oui. C'est-à-dire que je suis une femme, j'aime le sport pratiqué par les femmes, mais je kiffe aussi le sport pratiqué par les hommes. Et en fait, on essaye de genrer une passion ou une professionnalisation. Moi, j'ai dans toute ma carrière, j'ai été entourée d'hommes qui m'ont tout le temps impulsé des trucs sur le sport féminin. Donc, en fait, pour moi, c'est pas genré. Par contre, je pense que pour marquer les esprits et titiller, oui. Mais on sait aussi qu'il y a des femmes qui s'en fichent du sport féminin. Donc, je pense que oui, on a besoin de féminiser un peu plus, mais là encore, il faut bien choisir ses voyants. Et moi, je suis plus pour la mixité, pour le coup, parce que y a pas de raison qu'un homme ne parle pas mieux que moi des disciplines sportives et de la médiatisation, en fait.
Bien sûr, Sandy Montanola, je sais pas, par exemple, une femme qui dirigerait la Fédération française de rugby aujourd'hui, est-ce que ça serait quelque chose de possible? Et surtout, je ne sais pas, qui changerait quelque chose?
En fait, que ce soit pour le milieu sportif ou le milieu journalistique, parce que je pense que là, on peut faire le parallèle, il y a très peu de femmes parmi les journalistes de sport. Dans les deux cas, je pense qu'il faut, en tout cas, poser peut-être la question différemment, en se disant, d'un côté, est-ce qu'on a besoin de prouver ce qu'elles vont apporter pour essayer de valoriser le fait qu'il y ait des femmes? Je pense que, du point de vue social et politique, on peut se dire qu'à un moment donné, en 2023, en fait, simplement, on se devrait dire, elles devraient pouvoir accéder à ces postes-là. Si on commence à dire, il faudrait qu'elles puissent accéder à ce poste-là. Parce qu'en venant ici, elles vont pouvoir féminiser, elles vont pouvoir... Mais en fait, on leur donne un rôle qui n'est pas le leur.
Pas ça, oui.
Si on met quelques femmes dans un secteur, nous, on l'a montré, en tout cas, les recherches l'ont montré en journalisme, quelques femmes dans un secteur, elles ne peuvent pas, à elles seules, faire évoluer. Tout simplement parce que, et encore plus dans le sport, parce que le sport, c'est un métier qui est présenté comme un métier passion, dans lequel on sait qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de concurrence. Donc, globalement, et là, si on parle, par exemple, côté études de journalisme, oui. Voilà, il y a beaucoup de candidats. Il y a après beaucoup de, enfin, on va dire peu d'élus justement, et donc beaucoup de concurrence. Et ça veut dire que qui va aller refuser, par exemple, de faire tel ou tel élément alors qu'il a déjà eu ou qu'elle a déjà eu des difficultés pour arriver là. Ben, franchement, il y a peu de chances. Donc ça veut dire que nous, on a, voilà, je suis responsable d'une des 14 écoles en journalisme. Nous, quand on a des étudiantes qui reviennent et qui nous disent, on m'a dit ça, c'est sexiste, mais bon, enfin, je suis là, j'arrive. Oui, c'est à dire en gros, déjà, il a fallu rentrer dans une école, ensuite rentrer dans un média, faire changer les choses, c'est pas facile. Donc en fait, il y a un taux de féminisation qui est normalement au-delà en fait, de 30% pour pouvoir espérer amener un changement. Si on leur dit ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller couvrir du sport féminin. Le problème, c'est quoi? C'est que la hiérarchie actuelle fait que le sport féminin est moins bien reconnu. Donc n'importe quelle personne qui a fait des études, qui arrive dans un média, a envie d'aller couvrir ce qui est hiérarchiquement le mieux considéré, ce qui est normal.
Et au-delà de ça, on nous a toujours... Enfin, moi j'ai 50 ans, j'ai commencé à Canal, j'en avais 25, donc je vois bien quand même où on en est au niveau du chemin. Oui, mais vous, parce que comme ça, vous allez parler différemment. Mais en fait, à quel moment je vais parler différemment d'un match de football?
Ah oui, bien sûr.
D'un sportif? Non, je ne vais pas parler différemment que mes confrères masculins.
Oui, bien sûr.
Pourquoi je serais assignée? Je suis censée parler de quoi exactement que les garçons n'aborderaient pas dans leurs interviews ou dans... C'est ce truc-là de biais cognitif sur le genre est désarmant. Et moi, je suis effectivement, on est 3 femmes à diriger une rédaction sportive en France. Recruter des jeunes filles, c'est pas si simple, hein. Vraiment,
pourquoi,
hein, c'est pas
pourquoi,
si simple.
Là,
d'abord parce qu'elles s'auto-censurent, elles ne viennent pas beaucoup sur le monde du sport. Pourquoi? Parce que Sandy disait, c'est un métier passion. Mais c'est un métier qui est aussi vu comme très chronophage. Vous n'êtes pas là le week-end, vous n'êtes pas là le soir. Et moi, si un jour je veux avoir des enfants, comment je vais faire? Ou si je veux avoir une vie de famille? Donc il y a aussi ce truc-là, il est hyper concurrentiel. Et les filles, à un moment donné, elles se disent, oh là là, ça va être trop compliqué.
Trop de combat, encore une fois.
Donc je vais faire politique ou société. Enfin voilà, c'est pas si simple aussi de faire rentrer les filles. Et, mais par ailleurs, moi, les filles que j'engage et que je fais rentrer, je leur demande pas de se comporter comme des filles. Hein. Je leur demande de se comporter comme des journalistes et d'être meilleures que les garçons si elles veulent, mais en tant que journaliste, pas en tant que genre qu'elles pourraient ou non représenter.
De tout simplement faire son métier, en fait. Hein.
Et c'est comme ça à tous les niveaux. On parle de sport, on parle de journalisme, mais dans tous les métiers. Et si on prend les métiers à l'intérieur, avec les spécificités dans le sport, les directeurs, et je dis les directeurs, parce que directrice de la performance, il n'y en a pas. Dans les fédés olympiques, il n'y en a pas. À l'Agence nationale du sport, j'ai regardé. Qui s'occupe de la performance? Il y a un patron, des référents qui s'occupent de la performance. Moi, je travaille dans la performance, j'ai été regardée. Incroyable, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on a fait des performances, on s'est formé, on est experte. J'ai vraiment pas peur de le dire. Et il n'y a personne.
Mais moi, j'ai une question, Frédéric. J'ai une question, Frédéric. Toi, tu as fait campagne pour au niveau au moment de la de renouvellement pour la Fédération française de judo. Pourquoi t'es pas patronne?
On a mixité.
Mais pourquoi t'es pas patronne?
Déjà, ce qui est bien, c'est que nous, déjà, on a dit, on a mixité, on a un comité directeur, on a 10 femmes, 10 hommes, bien avant que la loi passe. Hein.
Oui,
d'accord.
Bien sûr,
parce qu'on s'est dit,
elle passera en
janvier
2024.
Et ça, c'était mon rôle, parce qu'il faut être exemplaire. Et je les ai saoulés, hein.
Oui, mais d'accord, Frédéric, je repose ma question. T'as pas voulu être présidente de la Fédération de judo?
Parce que c'est pas moi qui, au départ, on est venu me chercher pour faire campagne, déjà. Il y avait une personne, en l'occurrence Stéphane Nomis, qui s'est proposé, qui a été me chercher, et qui m'a dit, tu vas t'occuper du haut niveau et de la perf, ce qui est déjà incroyable. Une vice-présidente à la performance et au niveau. Faut avoir la légitimité, faut avoir la crédibilité, faut savoir évidemment en parler, mais malgré tout, aujourd'hui, mais je le dis, et pourtant, j'ai réactualisé, j'ai réorganisé, restructuré le haut niveau aussi à la Fédé, mais malgré tout, ça a été un combat de nommer une féminine à la tête des cadets cadettes. cadets, cadettes. Hein. Les juniors, c'est encore des garçons. Chez les responsables masculins, ok. Responsables des féminines, c'est quand même un garçon. Mais c'est un travail et un combat dans ma propre fédération
voit que c'est tout un
système, de tous les jours. On a un directeur aujourd'hui du haut niveau et pas une directrice du haut niveau. Et même s'il y a une élue en charge du haut niveau, mais c'est un combat de tous les jours, je vous l'assure, dans ma propre fédération.
Et juste avec une figure emblématique qui aide quand même toutes les femmes sportives qui est Clarisse Agbegnénou et qui est la reine de sa discipline mondialement.
On va en parler de ces modèles justement dans un instant, dans le débat de midi. On continue à parler du sport au féminin. N'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter. En attendant, on s'écoute Caroline Polachek avec Welcome to My Highland.
Your ego, watch your head, girl. You're so smart, so talented. But now the water's turning red, and it's all your fault, and it's all your mess. And you're all alone, you can't go to bed. Too high on your adrenaline. You gotta go somewhere where you can't pretend. Go forget the rules, forget your friends, just you and your reflection. Cause nothing's gonna be the same again. No, nothing's gonna be the same again.
Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi. Alors peut-être ce week-end, eh bien vous allez regarder la finale de la Coupe du Monde de football entre l'Angleterre et l'Espagne. La France, elle, malheureusement, eh bien a été éliminée en quart de finale face à l'Australie au tir au but. Mais justement, elle en est où alors cette médiatisation du sport féminin? Vous êtes nombreux à réagir, notamment sur l'appli France Inter, et on va écouter tout de suite Arthur, qui est un fan de foot lui-même et qui nous a laissé cette note vocale.
Bonjour tout le monde. Je suis Arthur, j'ai 27 ans et je voulais exprimer ma déception vis-à-vis des chaînes YouTube françaises qui parlent de foot toute l'année. Qui voilà, on a des YouTubeurs qui font des très bonnes vidéos de décryptage, d'analyse, même de présentation d'équipe pour la Coupe du Monde. Et en fait, j'attendais moi le même traitement pour la Coupe du Monde féminine. Et il y a absolument rien eu. Et voilà, je me demande si c'est pas un peu un manque de respect pour notre sport. Voilà.
Voilà, voilà notre sport. Vous voyez, finalement, Frédéric.
Alors, ça, c'est la jeune génération. Mais c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup d'espoir.
Ah, bah oui, voilà, ça me. La nouvelle génération. Ça fait du bien, merci Arthur.
C'est voilà.
Tous ensemble, s'il vous plaît. Émilie Rose, on le voyait tout à l'heure, on parlait justement de ces médias aussi alternatifs. Bah, on voit qu'il y a des youtubeurs qui, normalement, suivent le foot, qui se disent bon, la Coupe du Monde de foot féminine, ça ne nous intéresse pas.
Ouais, ou ça ne nous intéresse pas. Et de la même manière, les équipementiers, alors là je vais parler d'un domaine que je connais bien, c'est la communication et le marketing. Les équipementiers, dont ceux qui équipent les athlètes, peuvent aussi soumettre des profils à des youtubeurs parce que ça fait partie de la médiatisation. On le fait beaucoup chez les hommes et en fait bizarrement chez les femmes. Voilà, donc moi je m'occupe aussi de youtubeurs où je me force à dire les gars, c'est bien parce qu'il y a Selma Bacha qui est une joueuse incroyable à Lyon, qui est à Lyon, une pépite lyonnaise, et croyez-moi on va en parler longtemps, il faut absolument faire une vidéo avec elle, mais t'es obligé en fait encore une fois de convaincre aussi bien l'équipementier, etc. Et bon, on y est arrivé. Seulement après, on revient sur le point de la rentabilité, où bah, quand t'es youtubeur, c'est ton activité, ton objectif, c'est de faire des vues, et que bah, tu vas faire moins de vues avec une Selma Bacha qu'avec un Presnel Kimpembe. Ce qui me rend hystérique, hein. Malheureusement, voilà.
Alors, il y a une petite exception, il y a une publicité quand même extraordinaire qui a fait des millions de vues d'un opérateur téléphonique français qui a un nom d'une couleur ou bien d'un fruit, comme
d'un
vous
fruit,
voulez,
oui.
Qui l'a prouvé que quand vous cassez les codes marketing et publicitaire, ça marche.
Ça marche. Alors, Nathalie, justement, j'ai des questions pour vous parce qu'on a des auditeurs qui ont beaucoup d'idées. Alors, comment faire évoluer
génial,
la chose?
Vas-y.
Alors, justement, il y a Jackie par mail qui dit, par exemple, que penser des finales de Roland Garros? Finale messieurs, toujours le dimanche, finale dames, toujours le samedi.
Ouais, mais au moins, ça
Est-ce
mérite.
Qu'on peut pas inverser, lui? C'est ce qu'il explique.
Si, peut-être. Est-ce que ça changera quelque chose? Je n'en suis pas certaine.
Oui.
Pour le coup, les tournois de tennis sont très intéressants dans leur fonctionnement, parce que la mixité fait que, en fait, quand vous allez voir une journée à Wimbledon, à Roland, à Bercy, de tennis, vous, alors à Bercy, non, parce que c'est que les garçons, mais sur des tournois du Grand Chelem. Bon, bah vous voyez un match, peu importe d'ailleurs de qui, contre qui, parce que vous allez voir du tennis. Et ça, c'est très intéressant. Objectivement, sur d'autres sports, le fait qu'il puisse y avoir aussi un mélange des levées de rideaux, etc., ce serait pas si mal aussi de mélanger parfois. Donc le tennis est un contre-exemple, parce que je crois que s'il y a bien un endroit, et pour le coup à Roland-Garros y compris, d'un point de vue d'égalité salariale, parce que c'est le même prize money pour les hommes comme pour les femmes. Mais oui, Jackie a raison, au moins sur le fait qu'ils sont ensemble.
Voilà, prize money, c'est l'argent que l'on gagne en effet après un tournoi. Autre idée, alors là ça revient souvent, c'est assez étonnant, c'est la mixité des équipes. Par exemple, Serge Parmaille qui nous dit pourquoi au foot on ferait pas... Alors là c'est un peu compliqué, parce que je crois qu'il ne sait pas que ça se joue à 11, mais c'est 5 femmes et 5 hommes voilà, sur le terrain, ou alors participer même à des équipes en général, les sports collectifs. Est-ce qu'on pourrait mélanger hommes et femmes? Est-ce que Frédéric Jocinet, ça vous paraît aberrant, ça, comme idée?
Alors déjà, c'est pas forcément aberrant. Après, il faut voir les disciplines sportives. Mais il y a de plus en plus de volonté, notamment de la part du CIO, puisqu'il y a de plus en plus d'épreuves maintenant de mix team. Et la preuve en est que ça fonctionne. Le judo, champion olympique, les premiers à jamais. Petit clin d'œil sud de la France. Et à mon fils en même temps. Du coup, mais les premiers à jamais, 18 millions de téléspectateurs pour l'équipe de France championne olympique mixte team. Et aujourd'hui, partout. Hein. On nous parle de judo, on nous parle de Teddy Riner, de Clarisse, etc. Mais tout le temps.
C'était génial.
Et en premier, on nous parle de la mixed team. Ça lève, oui, parce que c'est une épreuve par équipe et qui est mixte. Ça lève les foules, ça plaît et ça existe maintenant dans plein d'autres disciplines. Et peut-être que l'avenir, en fait, elle est là.
Et là, oui, Sandy Montanola, on a beaucoup, en effet, d'auditeurs et d'auditrices qui nous proposent cette solution, en effet, de mixité à l'intérieur des équipes.
Je pense qu'une des solutions, c'est plutôt de réfléchir à la question des résistances. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que les résistances, on les avait avant. C'est-à-dire, en gros, si on reprend l'histoire, les femmes étaient empêchées de faire du sport parce qu'on disait que ça allait les empêcher d'avoir des enfants et que c'était leur rôle social. Donc, c'était vraiment des discours médicaux et on a adapté en fait les épreuves avec toujours cette idée que les femmes étaient moins physiquement, elles arrivaient à tirer moins loin, courir moins vite, enfin voilà, moins résistantes, etc. Et donc, le sport, c'est développé comme ça. Ce qu'on voit là, c'est vraiment des résistances qui étaient en tout cas présentées comme étant médicales au départ, ou en tout cas soutenues comme ça, et qui maintenant en fait vont plutôt sur la notion de performance, d'intérêt. Et c'est pour ça que je dis que ce discours, en fait, commencer par le déconstruire, ça enlèverait une partie en fait du problème. Parce que ce qu'on voit là, c'est que simplement on a du mal à capter une partie de lectorat par exemple ou d'auditeurs, simplement parce qu'on a aussi des gens qui sont extrêmement résistants. Et on fait comme si ça n'existait pas, mais il suffit d'aller regarder n'importe quel commentaire, n'importe quel, enfin là, les articles par exemple, il y a un nombre de commentaires incroyables et à chaque fois l'idée c'est de dire bah, déjà qu'elles prouvent qu'elles arrivent à jouer au foot et puis on verra bien. Donc ça, bon, ça fait longtemps qu'elles ont prouvé. Par contre, il suffit de voir qu'elles n'ont pas les mêmes conditions. On a parlé aussi, elles n'ont pas les mêmes conditions, ne serait-ce que de. On le disait tout à l'heure, ça joue beaucoup la réalisation. Bon, pendant longtemps, les femmes avaient beaucoup moins de nombre de caméras, donc ça paraissait beaucoup plus lent, beaucoup. Donc tant qu'on pourra pas comparer ça, on pourra pas non plus comparer les types de jeux, etc. Et aussi, ça dépend des types de sports.
Parce
il y a des sports dans lesquels ça pose aucun problème et on voit que ce soit en marathon maintenant, que ce soit en escalade, que ce soit en voile. Cette question, on n'a plus besoin de le prouver. Par contre, je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir sur, on va dire, une vision peut-être plus politique et sociale de ce qui nous empêche encore d'avancer là-dessus avec cette idée. Et on le voit dès le collège. Les sports sont pas mixtes, les stéréotypes sont très présents. Et donc, je pense qu'on avancera plus facilement sur ces points-là.
Vous parliez de stéréotypes, mais est-ce que finalement aussi, ceux-là, ils sont très inscrits dans la société? Par exemple, là, au mois de septembre, on va inscrire ses enfants pour une activité sportive. Est-ce qu'on hésite toujours, mine de rien, aujourd'hui, quand je disais en intro de dire, oui, une fille qui fait du rugby? Aujourd'hui, est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'il y a encore justement ces blocages dans la société, d'après vous?
Alors, j'ai pas d'enfant, c'est compliqué, mais j'espère pas. J'espère pas qu'il y ait ça aujourd'hui en 2023, parce que nous, on fait effectivement beaucoup de constats sur le professionnel. J'ai l'impression que dans le monde amateur, quand même, il y a une évolution. En tout cas, je pense aux licenciés de foot, de rugby, au niveau des petites filles. Et tant mieux. Après, il va falloir les accompagner. Encore une fois, montrer que c'est possible. Et puis la mixité aussi, c'est peut-être aussi une solution.
Frédéric Jossinet, pour vous aujourd'hui, c'est barrières psychologiques qu'il peut y avoir.
J'ai envie de dire, il y a aujourd'hui, je pense qu'en effet, les fédérations, mais parce que aussi il y a eu, et tu l'as dit Nathalie, il y a un vrai une vraie sensibilisation, mais aussi une volonté du gouvernement à un moment donné avec des plans de féminisation obligatoires à travers les fédérations, parce qu'il faut pas oublier que c'est les fédérations quand même qui accompagnent le développement et donc l'accessibilité à la pratique. C'est ça, hein, le premier article de la loi 1901 d'une fédération, c'est les fédérations doivent permettre l'accessibilité par tous et par toutes, quel que soit l'âge, quel que soit handicap, etc., valide, pas valide, etc., l'accessibilité à la pratique. Ça, je pense que depuis 2013, c'est plutôt bien accompagné. On l'a vu sur le rugby, on l'a vu au foot, en un passage de 50 000 à 200 000 licenciés, etc. Et tout. Après, c'est les conditions d'accueil. Comment on les accueille? Et maintenant, les conditions d'encadrement.
Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, et ça je le sais, des éducateurs, des éducatrices, des entraîneurs, de dire tu vas encadrer des filles, des fois c'est pris comme une punition.
Incroyable. Au-delà de ça, pardon, mais pour le coup, confier des petites filles, c'est quand même important. Et il y a très peu de femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont bénévoles, mais il y en a très peu qui ont les diplômes et qui vont dans le coaching, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi.
On y est, les diplômes, les formations, et donc l'accessibilité, pour le coup, à encadrer un public féminin avec ses spécificités. C'est là aujourd'hui les fédérations, parce que c'est eux hein, quand même qu'on levier, et la clé, et c'est là-dessus qu'on doit être meilleur.
Sandy Montana, vous vouliez réagir.
Oui, non, c'est juste que sur les stéréotypes, on y est toujours. Enfin, je veux dire, les stéréotypes sont extrêmement présents. Ils changent de forme, mais ils sont toujours extrêmement nombreux. Et on voit cette sexualisation qui, parfois même, se renforce maintenant sur certains sports. Et il y a certains parents qui, en fait, eux-mêmes ne partagent pas ces stéréotypes, mais envisagent le parcours qui peut être difficile pour leur fille en connaissant les stéréotypes et se disent, bah, en fait, autant lui faire faire un sport dans lequel elle n'aura pas besoin de se battre pour faire le sport qu'elle aime. Donc, on sait aussi que c'est un frein extrêmement fort, enfin, qui reste maintenant. Quoi.
D'ailleurs, tout à l'heure, Nathalie, vous parliez d'une publicité hein, d'un opérateur téléphone. Moi, je vous encourage à aller voir une publicité, c'est celle de la Fédération française du Portugal pour la Coupe du Monde féminine de foot, justement, qui était sur les stéréotypes de genre et qui était assez intéressante et osée. Une dernière chose, vraiment, quand on parle de sport, Émilie Ross, c'est Nicolas, par mail, qui nous dit, j'ai vu hier sur Arte le portrait des sœurs Williams qui ont dû vraiment se battre, elles sont médiatisées, de vrais modèles pour beaucoup, même pour les hommes. Avoir des modèles, c'est vraiment ça aussi qu'on recherche aujourd'hui.
C'est hyper important. Moi, j'ai grandi avec Marie-Josée Pérec et Soria Benali. Oui. Pas pour les performances, mais parce qu'en fait, elles étaient tout le temps dans ma télé. Donc, en fait, elles sont devenues mes références. Et je pense que oui, c'est important pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'il y a différents parcours, qu'il y a différentes façons de y arriver. Et puis, on a envie de s'identifier à ces athlètes.
Oui, c'est ça, tout simplement. Oui, en effet, les modèles. Eh bien, merci en tout cas vous quatre d'être venus débattre aujourd'hui au débat de midi, Émilie Ross, Nathalie Yanetta, Sandy Montanola et Frédéric Jocinet. Je précise d'ailleurs une chose, c'est que les Jeux Olympiques, on suivra bien sûr sur Radio France, hein, bien sûr, Nathalie.
Nous sommes radio officielle, mon cher.
Eh bien oui, mais c'est les premiers Jeux égalitaires de l'histoire.
Pour les athlètes, ouais, voilà. Il y aura autant de femmes athlètes que d'hommes.
Voilà, il faut quand même le souligner. Allez, à la réalisation, il y avait Étienne Bertin à la technique, c'était Lison Berger, une émission préparée par Aloïse Nollet, Pierre de Certaine, Savannah Ruelland. Le débat de midi revient bien sûr lundi. On parlera d'un tout autre sujet lundi, puisque nous évoquerons la rentrée littéraire. Alors, cette vieille tradition française a-t-elle
encore... Pas sûr que ce soit un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de sexisme dans le monde de l'édition.
Mais alors, vous reviendrez également, Nathalie. En fait, vous êtes abonnée maintenant au débat de midi, vous pouvez pas faire sans. Allez, merci beaucoup et très bon week-end. Il est 13h sur France Inter.